Ce soir, nous recevons Madame Anne Mansuret, conseillère générale de l'Eure et conseillère régionale de Haute-Normandie, membre du Parti socialiste, spécialiste de la communication. Pour son ouvrage « Chronique d'une victoire avortée » publié chez Jean-Claude Gazevitch. Cet ouvrage porte également un bandeau de couverture avec « Au secours, la gauche va perdre l'élection présidentielle ». Cet ouvrage compte plusieurs volets, très évidemment l'affaire Strauss-Kahn, le fonctionnement et les mœurs au sein du Parti socialiste, votre démarche au sein de ce même parti et comment se font les mises en place des candidats à la présidentielle. Et on parlera un peu des barons socialistes et leurs affidés, si on a encore le temps. Bon, je me dois de vous dire, en vous lisant, qu'au bal des faux culs, il y en a qui ne font pas tapisserie. Hein. Parce que comment la rue Solferino tolère votre prise de parole et je les cite, hein, votre opportunisme écœurant et malsain, hein, ça vous a quand même été envoyé. Est-ce qu'ils vont vous exclure? À mon avis, ça devrait peut-être pas tarder. On va rentrer un peu dans le sujet et pour situer un peu l'environnement, vous allez nous parler du Parti socialiste et comment ça marche. Parce que vous lui consacrez un petit chapitre là-dessus. Et pour qu'on comprenne et qu'on vous suive bien, vous allez nous dire comment tout ceci fonctionne.
Écoutez, je vous remercie d'abord de m'inviter aujourd'hui. Je voudrais vous remercier tous aussi d'être là ce soir. Vous dire que je n'ai pas entrepris avec cet ouvrage, une démolition du Parti socialiste. Autrement, ben, j'aurais rendu ma carte et puis voilà. J'ai tenté de faire quelque chose, d'abord parce que je me suis trouvée dans une situation personnelle extrêmement violente, qui a été l'histoire de ce qu'on a appelé l'année dernière l'affaire Strauss-Kahn. Et j'ai reçu beaucoup de sollicitations d'éditeurs étrangers, anglais, allemands, canadiens, pour écrire, disons, ma version de l'affaire Strauss-Kahn. Et je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu le faire, d'abord parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de commentaires qui avaient été faits à mon sujet dans la presse et que ces commentaires étaient, le moins qu'on puisse dire, éloignés de la réalité de ce qui s'était passé. Et d'un autre côté, je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti. Je me disais qu'il fallait sûrement pas, si je faisais ça un jour, que je le fasse à vif. Donc j'ai refusé, mais en attendant, j'avais envie de dire des choses. Et j'avais envie de dire des choses non seulement sur cette affaire, mais surtout sur la façon dont cette affaire s'était déroulée en amont et en interne au niveau du Parti socialiste, parce que ça n'est pas tombé comme ça, un beau matin, par hasard. On n'a pas tous découvert un 15 mai, en regardant la télévision, que Dominique Strauss-Kahn avait des tendances, des pulsions, et qu'il avait l'incapacité de contrôler ses pulsions et cette espèce de caractère prédateur qu'il pouvait avoir avec les femmes. Tout le monde le savait. Quand je dis tout le monde, évidemment, peut-être pas le militant de base dans un village reculé, mais toute la direction du Parti socialiste était au courant. Et parallèlement, j'étais très ennuyée parce que je voulais à la fois dénoncer ce fait, à savoir cette omerta qui avait régné pendant des années autour de Dominique Strauss-Kahn, et essayer de décortiquer les raisons pour lesquelles cette omerta avait servi les ambitions des uns et des autres. Parce qu'on ne se tait pas sans raison. On se tait par intérêt, et le plus souvent par intérêt personnel, et par peur de voir ses progressions de carrière, ses ambitions entravées, parce que, comme on dit, il ou elle parle trop. Bon. Moi, je n'avais pas d'ambition de carrière. Je n'en avais jamais eu avec le Parti socialiste parce que, pour vous dire en deux mots, à la base, je suis radicale de gauche. Et puis, je me suis brouillée, si je puis dire, avec le Parti radical de gauche en 2001, quand on m'a demandé de soutenir, vous savez qu'on parraine les candidats à la présidence de la République, on m'a demandé de parrainer Madame Taubira, qui est une femme pour qui j'ai énormément d'estime, mais qui n'était pas radicale de gauche et qui parallèlement était présentée par le PRG, puisque voilà, on l'appelait comme ça, pour représenter le PRG aux élections présidentielles de 2002. Ce faisant, elle mettait en péril, évidemment, comme M. Chevènement et beaucoup d'autres, l'élection potentielle de Lionel Jospin. Donc j'ai refusé, je suis allée au clash avec le Parti radical de gauche et je suis devenue divers gauche. Et j'ai été divers gauche jusqu'à ce qu'on me demande de participer à une liste au régional de 2004. Donc quand l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre avec ma fille, c'est-à-dire en 2003, quand l'affaire s'est produite avec ma fille, je n'étais pas au Parti socialiste et je n'entendais absolument pas prendre ma carte un jour parce que ça n'était pas dans ma façon de voir les choses. J'avais toujours été très proche du Parti socialiste, comme beaucoup de radicaux de gauche. Je connaissais très bien ceux de ma génération qui étaient devenus des ténors du Parti socialiste, mais je n'avais pas envie de pénétrer la forteresse de l'intérieur parce que ça ne correspondait pas très sincèrement à ma façon de voir la politique. Alors pourquoi ? Pour répondre à votre question, cher ami, le Parti socialiste est, comme peut-être d'autres partis, mais ça je ne peux pas en juger, organisé de façon très féodale. Petit à petit, au cours des années et des élections, nous avons gagné à peu près la majorité dans toutes les collectivités territoriales, les régions, les départements, les grandes villes. Bon, je parle de Lyon, je parle de Lille, je parle de Nantes, etc. Et Paris, bien évidemment, qui a été le fleuron de la rose au poing. Bon. Et donc, comme on a gagné ces collectivités, se sont organisées autour de ces fiefs, des organigrammes qui vont du plus petit au plus grand, avec un côté ascensionnel, si je puis dire, un peu comme un sapin. C'est-à-dire que en dessous du sapin, vous savez bien qu'il ne pousse absolument à rien. Il n'y a que des épines, parce que essayer de planter une fleur au pied d'un sapin, ça ne marche pas. Et donc, il faut être dans le sapin. Et ça peut être en commençant à 25 ans ou très jeune, comme attaché parlementaire ou comme membre du cabinet, du président, du conseil général de tel endroit, etc. Et à ce moment-là, vous avez un parti qui n'est plus un parti de militants, qui n'est plus un parti de gens qui font de la politique parce qu'ils ont la foi, mais vous avez un organigramme de multinationales, quelque part, c'est-à-dire que vous avez des quantités de filiales de la rue de Solferino qui sont organisées autour des fiefs dont nous avons le contrôle dans les territoires. Alors, c'est né bien évidemment de la décentralisation, parce qu'auparavant, d'être maire de Lille ou de Nantes, ça ne représentait rien. Aujourd'hui, avec les lois de décentralisation, ça veut dire que vous êtes, dans la quasi-totalité des cas, président de l'agglomération. Ça veut dire que vous avez des budgets considérables, que vous avez un pouvoir considérable et que vous pouvez placer à travers tout cet aéropage de situations personnelles, vous pouvez placer toutes sortes de petits camarades. Et plus ils sont efficaces auprès de vous, plus ils vous servent bien. C'est exactement comme ce qui se passait au Moyen-Âge. Vous avez des fiefs, vous avez le baron local. Et d'ailleurs, on appelle couramment, par exemple, Laurent Fabius, le duc de Normandie, où vous avez le duc de Bretagne, c'est Monsieur Hérault, etc. Mais en dessous, vous avez toutes sortes de gens dont le futur est conditionné par cette organisation. Alors évidemment, si vous êtes bien dans les clous, si vous faites ce qu'on vous dit, si vous savez obéir, parce que c'est un peu comme une armée, eh bien, vous progressez. C'est une mentalité. Moi, je ne la critique pas. Tant qu'il n'y a pas eu d'affaires du style de l'affaire Strauss-Kahn, pourquoi pas ? Après tout, ça peut se concevoir. Je n'y voyais rien à redire, sinon que j'étais trop vieille, parce que moi, j'ai commencé à faire de la politique, comme d'autres font du jardinage, à une époque où on cherche à avoir une retraite active. Puisque j'ai été élue pour la première fois en 2001 et j'avais 50 ans. Donc voilà, c'était pas un âge auquel on ambitionne de faire carrière dans la politique.
Votre obsession, c'est pas devenir ministre.
Non, mon voilà. Obsession n'est absolument pas de devenir ministre. Mon obsession, en revanche, je dois le confesser, était d'être élue. Parce que je ne suis pas française d'origine, j'ai acquis la nationalité française à l'âge de 21 ans. Ça peut paraître curieux parce que je n'ai jamais été l'objet d'un délit de faciès, mais je suis iranienne. Et donc, par conséquent, pour moi, le fait d'être élue représentait, oui, une espèce de besoin identitaire. J'avais le sentiment d'entrer réellement dans la République. En devenant l'élu, puisque ça n'était pas, a priori, la voie qui m'était destinée. Donc,
voilà. C'est ce que Barre me disait toujours, c'est l'onction du suffrage universel.
Mais c'est pour ça que j'ai une sympathie particulière et une fierté très grande de mon mandat de conseillère générale, qui n'est pourtant pas extrêmement reluisant à aucun égard, mais parce que c'est un mandat qui est un mandat au suffrage uninominal à deux tours, c'est-à-dire qu'on vous choisit, vous, et je suis d'autant plus fière que j'ai pris un canton à la droite qui avait ce canton depuis 28 ans, et donc je suis la première élue de gauche dans le canton d'Évreux-Est, qui est en plus un canton semi-rural. Donc je ne vous raconte pas, une iranienne, ce n'était pas tout à fait évident. Mais cela dit, je m'y plais beaucoup et les gens qui votent pour moi, hélas, ne votent pour moi qu'au niveau du Conseil général, parce qu'ils me veulent, entre guillemets, comme conseillère générale. Mais pour les élections nationales, la carte politique reprend le dessus. Et ce sont des gens qui sont à droite. Et c'est, enfin, il y a eu une très, très forte majorité à toutes les élections nationales, présidentielles et législatives, bien que je sois leur chouchoute locale. Donc, c'est vrai. C'était pour moi une fierté, une ambition, un besoin de reconnaissance. Et c'est vrai aussi que quand on me dit « Ah, Madame Mansourette, vous devez être d'origine bretonne », eh bien, ça me fait plaisir. Voilà. Alors que je n'ai pas une goutte de sang breton dans les veines. Inutile de vous le préciser. Mais il y a beaucoup de Bretons en Normandie, en revanche.
Je pense que c'est bien que vous ayez fixé les gens pour que les gens qui ne vous connaissent pas sachent véritablement comment est-ce que vous êtes arrivé en politique. On va maintenant passer, on revient en 2008.
Oui.
Cette mise en place de Strauss-Kahn, parce que en fait, c'est à partir de 2008 où les choses commencent à se mettre en place.
C'est même un tout petit peu avant, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec Ségolène Royal les primaires de 2006, qui ont précédé donc l'élection présidentielle de 2007. Et j'ai eu au cours de ce parcours l'occasion de m'apercevoir de deux choses qui se sont révélées intéressantes pour la suite, si je puis dire. Le premier point, c'est que Ségolène Royal a été réellement maltraitée par le Parti socialiste de l'intérieur. Alors, elle appelait ça le chaudron. Bon, elle disait toujours, ils peuvent pas me supporter dans le chaudron. Enfin bon, et c'est vrai que ça lui a été d'autant plus pénible à vivre, honnêtement, que parallèlement, elle vivait une crise conjugale, bien qu'elle n'était pas mariée avec François Hollande. Mais pour être claire et pour appeler un chat, elle a découvert qu'elle était cocue, ce qui n'est jamais très agréable. Mais quand on est déjà l'objet d'un rejet de la part de ses amis politiques qui sont supposés vous soutenir, qu'en plus on découvre, parce qu'elle savait que François la trompait, ça c'était clair, mais elle ne pensait pas qu'il affichait sa liaison avec Valérie Trierweiler, laquelle était journaliste. Et journaliste à Paris Match, qui plus est. Donc voilà. Et ça m'a permis, d'une part, de voir à quel point cette femme. Alors, c'est à double tranchant, parce que elle a énormément de talent, mais clairement, il y avait une faille à ce niveau-là. Parce qu'elle était, à partir du moment où elle a découvert les choses, totalement perturbée par ce qui lui arrivait au plan personnel. Et du coup, évidemment, sa campagne, ça battait un peu de l'aile, ça marchait plus très, très bien comme il fallait. Et c'était d'autant plus préoccupant que, parallèlement, la rue de Solferino l'avait carrément ostracisée et tout le monde se moquait d'elle dès que l'occasion était donnée. Parfois, à juste titre d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'elle a eu des mots qui étaient parfois assez maladroits. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'a donné cette expérience-là, cette connaissance des choses-là. Et parallèlement, ça m'a permis de constater que ces deux contradicteurs, qui étaient en fait Laurent Fabius d'un côté et Dominique Strauss-Kahn de l'autre, c'était très frappant quand on était dans les studios d'enregistrement, parce qu'ils étaient tous les trois derrière leur pupitre, et on avait vraiment le sentiment qu'ils étaient complices, et qu'ils étaient complices par rapport à la femme. Alors moi, déjà, spontanément, ma sympathie va plutôt pour la femme que pour les deux complices masculins, mais là, c'était particulièrement flagrant, parce que ils étaient d'une arrogance, d'une autosatisfaction, par exemple en matière de politique étrangère. Elle avait des notes, elle a beaucoup de mémoire, Ségolène. Elle avait des notes qui lui avaient été fournies par des gens comme Vedrine ou Bianco, qui sont des spécialistes en matière de politique étrangère. Donc ce qu'elle disait n'était absolument pas mal dit, ou bon, peut-être on peut avoir un agacement par rapport à la façon dont elle le disait, mais c'était tout. Et les deux étaient là et se regardaient comme ça du coin de l'œil, l'air de dire mais elle va arrêter ses conneries. Bon, c'était quelque chose de palpable dans les studios d'enregistrement et pendant toute la campagne. Et après, le hasard de la vie ayant fait que j'ai bien connu l'un et l'autre, je les ai vus se rapprocher. Et je les ai vus se rapprocher. Pourquoi ? Parce que, à titre personnel, moi, j'avais fait la campagne du oui au traité constitutionnel européen avec Dominique Strauss-Kahn, et Laurent Fabius avait pris le parti, entre guillemets, du non. Donc, j'étais très en froid avec Laurent Fabius, parce que je trouvais qu'il faisait une connerie, pour appeler un chat, parce que quand on est le signataire de l'acte unique, quand on a défendu toute sa vie des positions européennes en tant que Premier ministre et en tant que ministre, je croyais que c'était vraiment un petit peu fort de café d'aller prendre le parti du non par pur opportunisme, parce que effectivement le non avait des chances de gagner. Et puis aussi, par antagonisme vis-à-vis de François Hollande. Rappelez-vous, à l'époque, il y a une une de Paris Match. Je parle de ça un petit peu avant les primaires du Parti Socialiste, c'est-à-dire en 2004, qui avait donné le portrait de François Hollande et le portrait de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore élu, bien sûr, à l'époque président de la République. Et les deux étaient à la une de Paris Match en mettant qu'ils avaient tous les deux la même ambition de devenir président de la République. Et moi, j'ai vu mon Fabius, quand il a vu cette une, c'est tout juste s'il n'a pas attrapé une syncope, que ces deux minus à Binz puissent ambitionner de revendiquer une place qui lui était dévolue depuis qu'il était tout petit, c'était quelque chose d'absolument choquant, quoi. Il était le plus intelligent, le plus brillant, le plus titré, le plus agrégé de tout ce que vous voulez. Le fils chéri de François Mitterrand. Bon, vous me direz, Lionel Jospin, il pensait aussi qu'il était le fils chéri. Mais enfin, bon, on va dire que on sait bien que François Mitterrand, c'était pas facile de s'y retrouver dans sa filiation. Hein. Bon, alors donc, tout ça pour vous dire que le fait est qu'il a, son sang n'a fait qu'un tour et il s'est dit, c'est pas possible, il faut gagner. Or, ils ont bel et bien perdu l'un et l'autre. Et ça les a rapprochés. Et moi, j'avais, entre 2006 et 2008, j'avais d'un côté Dominique Strauss-Kahn qui me disait « Mais enfin, tu vas te réconcilier avec, avec Laurent, c'est ridicule, c'est ton chef de file en Haute-Normandie, tu sais bien comment ça marche chez nous. » C'est vrai. C'est très compliqué d'être en opposition avec son féodal du coin, si je puis dire. Bon, parce que c'est lui qui a la main sur tout. Bon. Et de l'autre côté, j'avais aucune envie de me réconcilier avec Fabius. Et puis finalement, je me suis dit, parce que je ne suis pas complètement idiote, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il tient absolument à ce que je me réconcilie avec Fabius? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, après tout? Bon. Et en fait, la réalité, c'était qu'ils avaient opéré un rapprochement. Vous savez, quand on est deux perdants en face d'une gagnante, ben, on a tendance à s'allier. Et ils étaient devenus les alliés objectifs. Et à partir de 2008, à peu près 6 mois avant le congrès de 2008 du Parti socialiste, ils s'étaient mis d'accord pour que, selon les circonstances, l'un ou l'autre soit le prochain président de la République. Si ce n'était pas Strauss-Kahn, c'était Fabius. Si ce n'était pas Fabius, c'était Strauss-Kahn. Mais ils arrêteraient de se concurrencer. Ils devaient gagner. Et pour gagner, il fallait que tout le courant du oui pour faire court et tout le courant du non se réunissent pour ne faire qu'une seule puissance, qu'un seul parti qui serait derrière l'un ou l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce qu'on a appelé dans les médias par la suite le pacte de Marrakech, en disant qu'il s'agissait d'un pacte avec Martine Aubry. Martine Aubry, la pauvre chérie, elle n'était pas du tout dans le pacte de Marrakech, à proprement parler. Elle était tout simplement, disons, manipulée. Enfin, elle n'était pas dupe, hein, mais elle était manipulée pour devenir la secrétaire nationale du Parti socialiste, parce qu'ils se sont dit, l'un et l'autre, qu'avec Martine Aubry à la tête du Parti socialiste, qui n'est vraiment pas dans une trajectoire d'ambition de devenir présidente de la République, ben, ils étaient à l'aise. Ils n'auraient pas à faire face à une Ségolène Royal ou à je ne sais quel Arnaud Montebourg ou que sais-je qui viendrait. Donc là, c'était blindé, quoi. Il y en aurait peut-être trois, mais eux, ils étaient alliés objectifs. Et c'est comme ça que s'est construit petit à petit, d'une part avec les moyens considérables de Strauss-Kahn, enfin par épouse interposée, mais parce que lui n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais son épouse a judicieusement hérité à ce moment-là de sa maman. Bon, donc ils se sont trouvés à la tête de gros moyens. Ils ont parallèlement décidé que ce serait plutôt Strauss-Kahn, d'une part parce qu'il paraissait plus facile de faire élire Strauss-Kahn président de la République que Laurent Fabius, parce que Laurent Fabius, il y avait la casserole du sang contaminé, il y avait le fait que il n'est pas très charismatique comme bonhomme. Non. Je veux dire, il n'emporte pas une adhésion. On imagine mal les gens trépigner dans des foules comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne très, très bien dans un exercice de ce genre. Lui, c'est plutôt, je le décris comme un prélat du XVIIe siècle peint par Philippe de Champaigne, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce côté à la limite compassé. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait y arriver à ce que Dominique Strauss-Kahn soit élu président de la République. Alors là, il y a un point que je n'ai jamais réussi à vérifier. Est-ce que Nicolas Sarkozy, en appuyant la candidature de Dominique Strauss-Kahn au FMI, à la direction du FMI, est-ce qu'il a fait ça pour s'en débarrasser, connaissant le côté très, très, très attiré par l'argent de Dominique Strauss-Kahn, le côté très, très affairiste, parce que, bon, il a un frère banquier aux États-Unis, enfin, etc. Bon. Est-ce qu'il l'a envoyé là-bas en se disant « je vais m'en débarrasser, comme ça il n'aura pas de prétention à venir me mettre des bâtons dans les roues en 2007 » ou est-ce que en 2012, pardonnez-moi, ou est-ce qu'il s'est fait avoir, parce que Nicolas Sarkozy, pour ce que j'en sais, je ne le connais pas, hein, mais pour ce que j'en sais, est quelqu'un qui a des aspects finalement assez puérils, c'est difficile de dire, mais assez, assez candide. Est-ce qu'il a vraiment voulu que ce soit un Français parce qu'il a probablement, comme moi, ce côté né étranger, etc. Bon, c'est possible. Je ne veux pas jeter la pierre systématiquement en disant qu'il l'a fait volontairement pour s'en débarrasser. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a fortement appuyé la candidature de Strauss-Kahn à la direction du FMI, qu'il s'est retrouvé directeur général du FMI et qu'à partir de là, avec des moyens de communication considérables dans le groupe Lagardère, dans les filiales du groupe au niveau de la communication. À ce moment-là, s'est mis en place un plan média, un plan com, pour faire du directeur général du FMI un surhomme. C'est pas compliqué, ça s'articulait autour de la personnalité du directeur général du FMI. Il faut savoir que le FMI a été dirigé par des gens de grande qualité comme Jacques Delarosière, qui sont des Français aussi,
comme quand dessus.
Bon, en dehors des habitués du forum de Davos, personne ne connaissait le directeur général du FMI. Ça n'était pas un sujet grand public, la direction générale du FMI. On a toujours, économiquement parlant, considéré que le FMI, c'était le bras économique armé des États-Unis, ni plus ni moins, et que le directeur général du FMI, il avait vraiment un pouvoir de décision qui était directement lié à celui de la Maison-Blanche. Bon. Et là, tout à coup, alors, il y a eu des articles, des 4-6 pages dans Paris Match, pour mettre en vedette la carrure de cet homme extraordinaire qui avait réussi, international, il était professeur d'économie, ça, on ne peut pas lui retirer. Mais je veux dire, ce professeur d'économie-là est devenu tout à coup un espèce de gourou international de l'économie qui frayait au plus haut niveau, qui tutoyait les chefs d'État, qui était dans... Bon. Alors qu'auparavant, alors vous allez me dire, il y avait des réunions auxquelles participait le directeur général du FMI à l'époque de Cantsu ou à l'époque de Jacques Delarosière. Mais encore une fois, à la rigueur, dans les échos, dans la tribune, bon, d'accord, mais certainement pas dans Gala et Paris Match, quoi. Bon. Et là, tout à coup, on vous a monté ça en épingle Et les communicants savent faire ça très bien. Vous savez, on peut vous vendre n'importe quoi.
Il y a eu une vraie firme.
Ah oui, oui.
Il y a eu la firme.
Mais c'est lui qui dit. C'est pas moi. Hein, c'est lui qui disait c'est ma firme parce que il avait son équipe de communicants et à chaque fois que tout était étudié, s'il allait acheter, un paquet de chocolat, on en faisait des kilos sur son régime. Ça est devenu une star internationale. Et ils se sont dit, les Français, on va tellement le leur inoculer dans leur vie quotidienne, avec des superlatifs tellement impressionnants. Vous savez, ce qu'on appelle la vox populi, elle est facilement manipulable parce que, surtout en matière d'économie, personne n'y comprend rien.
Les Français n'y connaissent pas grand-chose.
Personne n'y comprend rien, ouais. Pas seulement les Français d'ailleurs. Hein. Oui. Personne n'y comprend rien. Parce que l'économie, ça c'est la première chose qu'on vous apprend quand vous faites des études d'économie, c'est que ça n'est pas une science exacte. Le moins qu'on puisse dire est que ça se vérifie tous les jours. Hein. Parce que, donc en fait, l'économie, c'est beaucoup de mise en scène et beaucoup d'explications a posteriori. Quand on se prenait une dévaluation, on expliquait pourquoi elle avait eu lieu, mais personne n'était fichu de l'anticiper, vous comprenez ? Donc aujourd'hui, on vous dégrade avec des agences dont personne non plus n'avait entendu parler auparavant. Mais enfin, on vous dégrade du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous avez des quantités de Français qui se prennent la tête en se rasant le matin, en se disant « Mon Dieu, c'est épouvantable, on a perdu notre triple A ». Bon, je veux bien, mais enfin, depuis qu'on a perdu votre triple A, est-ce que vous avez franchement vérifié que dans la vie de tous les jours, il se passait des choses ? Moi, pas. Hein. Donc on vous inculque comme ça des choses, même souvent à l'insu de votre plein gré, et on se retrouve avec un personnage qui est devenu le messie de la gauche, celui qui réconcilierait à la fois l'économique et le politique, celui qui était l'anti-Sarkozy tout en ayant malgré tout le côté... charmant, je ne sais pas si on peut appeler ça charmant, mais le côté séduisant en tout cas de Nicolas Sarkozy que indéniablement Strauss-Kahn a plus que François Hollande par exemple. Hein, bon. Donc il y avait cette espèce d'engouement, en plus il a une femme qui est ravissante, qui a été number one à la télévision, on se rappelle de Dan Sinclair avec ses pull-overs en angora sortis à son regard, enfin je veux dire c'est un truc qui a fait rêver toute une génération et miraculeusement celle qui vote, hein. Parce que les jeunes, ils avaient un souvenir assez vague d'Anne Sinclair. Donc tout ça a été monté en épingle et on s'est retrouvé à un moment avec ce truc. Vous savez, c'est comme un secret de famille. Si vous avez, par exemple, dans une famille, un des enfants qui est particulièrement doué ou une fille qui est particulièrement promise à une destinée fantastique, bon... Alors, on sait bien qu'il y a un truc, bon, c'est pas terrible, c'est pas, ça pose problème, il vaudrait mieux que ça se sache pas, mais enfin, on va pas tout foutre en l'air pour ce truc-là. Bon. Et petit à petit, on s'est mis à camoufler ce que tout le monde connaissait comme étant le talon d'Achille numéro un de Dominique Strauss-Kahn, qui s'était révélé d'ailleurs à Washington dans l'affaire Pirojkanagi. Et on s'est dit, il faut pas en parler. Et celui, le premier qui parle... il est traité de fou, il est... voilà. Et c'est arrivé à un point que... Enfin, pour vous donner un cas vraiment pratique, ma fille, qui travaillait dans une maison d'édition à Paris, a été licenciée. Elle passe au mois de juin au Prud'homme, d'ailleurs, pour licenciement abusif, parce que l'éditeur a souhaité, ce qui est normal et ambitieux pour un éditeur, avoir la campagne de Dominique Strauss-Kahn dans sa maison d'édition, le suivi de sa campagne, son journal de campagne, comme on disait. Bon. Et de ce fait, quand Dominique Strauss-Kahn a découvert que ma fille travaillait dans cette maison d'édition, ils l'ont licenciée en 48 heures, parce que c'était le risque que, éventuellement... Donc, à tous les niveaux, on n'en parlait pas. C'était vraiment la chose...
C'est l'omerta.
L'omerta totale, il ne faut pas en parler, à force de ne pas en parler. Et puis, vous savez, il y a quelque chose de très pernicieux quand on ne parle pas. C'est que, à la limite, celui qui s'égare et qui parle, on se dit, il doit raconter des conneries. Puisque oui, personne ne le dit. Il débloque, il affabule, ou il prend, il en fait des kilos alors qu'il n'y a pas grand-chose. Il faut quand même savoir que les casseroles de Dominique Strauss-Kahn n'étaient pas exclusivement d'ordre sexuel. L'affaire de l'AMNEF, c'était quand même pas rien non plus. Hein. Bon, alors certes, il a réussi à faire croire, je ne sais pas, à un moment je cite la phrase, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans le procès verbal qui a été établi au moment de son acquittement dans l'affaire, enfin de l'abandon des poursuites dans l'affaire de l'AMNEF, il a sorti qu'il mentait de bonne foi.
L'homme qui sait établir voilà. Le distinguo subtil entre mensonge. Avec... ou sans intention de mentir.
Voilà. Alors c'est quand même un truc. Enfin, je veux dire, moi, j'ai bien connu Bernard Tapie, qui était quand même orfèvre en la matière, mais là, il n'avait pas osé aller si loin, parce que l'intention de mentir dans le mensonge, faut quand même faire le distinguo. Bon. Donc, on est arrivé à ce stade des opérations où plus personne n'osait ouvrir la bouche, et j'ai eu le sentiment très clair qu'on me fuyait.
On vous saluait même plus.
On faisait semblant de ne pas me voir, quoi. Bon. Parce que j'étais celle par qui, éventuellement, la révélation pouvait... parce qu'il faut vous dire que j'ai une sale réputation à ce niveau-là, parce que je suis... Comment ils appellent ça, mes petits camarades? Je n'ai pas de surmoi. Voilà. Pareil que j'ai pas de surmoi. Autrement dit, ce que je pense, je le dis de la façon la plus naturelle. Et ça, c'est vraiment très mal vu en politique, parce que entre ce que vous avez envie de dire et ce que vous dites, il y a ce qu'on appelle les éléments de langage. Et les éléments de langage vous sont communiqués régulièrement par ceux qui savent la façon dont vous devez dire ce que vous avez envie de dire. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais acceptée. Donc, moi, vu qu'on ne m'avait pas filé des éléments de langage pour parler de cette chose-là, ils avaient très peur, alors que de vous à moi, je ne l'aurais jamais, je n'aurais jamais transgressé quoi que ce soit. D'abord, pour une raison qui va vous paraître évidente, c'est que je suis extrêmement sincère, mais je ne suis pas complètement demeurée. Je savais aussi que c'était plus intéressant pour moi qu'il soit président de la République plutôt que poursuivi pour crime sexuel, hein, entre nous. Bon, donc j'avais tout intérêt, entre nous, à me taire. Parce que là, pour le coup, cher ami, peut-être que j'aurais pu avoir l'ambition d'être ministre.
Oui.
Mais malheureusement ou heureusement, qu'importe, le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens maintenant à ce qui est le point de départ de mon envie d'écrire ce livre. Chaque fois que j'ai envie de dire des choses, mais que je n'ai pas envie de les dire de la façon dont on souhaiterait que je les dise, j'écris. Et je me suis dit, je vais faire ça un peu comme une chronique, que j'aurais eu envie d'écrire au fur et à mesure, à partir du moment où je me suis intéressée à ce sujet, c'est-à-dire 2008. Et donc, j'ai écrit ce qui s'était passé entre 2008 et 2011. Alors, maintenant, dans un flash, je reviens à ce fameux 15 mai, 2h30 du matin 2011. On m'a beaucoup, beaucoup critiqué, non seulement au Parti socialiste, mais je dirais dans la France profonde, parce que j'ai tiré sur un homme à terre. Alors moi, je n'ai pas tiré sur un homme à terre. Pour vous dire les choses clairement, j'avais envoyé en janvier, plusieurs emails à François Hollande, qui était candidat aux primaires déjà, pour lui parler de ce qui m'était revenu aux oreilles concernant les agissements de Dominique Strauss-Kahn, non pas parce que je ne suis pas voyante extralucide ce qu'il est allé faire au Sofitel, mais ce qu'il avait l'habitude de faire dans la Fédération du Nord, c'est-à-dire à Lille et dans ses environs. Et je voulais lui en parler, non pas pour porter tort à qui que ce soit, mais pour que la rue de Solferino ait présent à l'esprit le talon d'Achille que ça représentait, quel que soit le candidat qui sortirait des primaires, mais que c'était quand même une boule puante qui risquait d'éclater à la gueule de celui ou celle qui... Et moi, je pensais surtout à Martine Aubry, voyez-vous, parce que Martine Aubry est quand même première secrétaire du Parti socialiste. Elle est également maire de Lille, présidente de l'agglomération Grand Lille, enfin Lille Métropole, et ça se passait quand même dans sa proximité la plus étroite, et en particulier ce qui avait un caractère, je dirais, pénalement répréhensible, puisqu'il y avait quand même le directeur de la Sûreté départementale qui était au courant de ces choses-là. Bon. Alors moi, comment je le savais? Par un ami qui est dans la Fédération de Lille et qui était très proche, comme on dit, du dossier. Bon. Et donc, je voulais en parler à François Hollande. Je lui ai envoyé plusieurs emails auxquels il m'a dit « bon, on se verra ». Puis là-dessus, le 15 mai, 2h30 du matin, c'était dans la nuit d'un samedi à un dimanche, je rentre chez moi après un banquet républicain à Brionne, je me mets au lit et je reçois un texto d'un journaliste qui avait mon numéro de téléphone et qui me dit « est-ce que vous savez où trouver votre fille ?» Il était 2h45 du matin. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, et moi, j'ai eu peur. Hein, j'ai eu peur parce que, voilà, on a toujours peur pour ses enfants quand on n'est pas à proximité immédiate. Et je l'ai appelé immédiatement et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Strauss-Kahn? Ben, je dis non. Moi, à Brionne... Bon. Alors, j'ouvre LCI, iTélé, tout ce que vous voulez. Rien, absolument rien. Je vais brancher mon ordinateur. Et là, sur la Breaking News et compagnie, je vois... bon. Et qu'est-ce que j'entends le chef de la police new-yorkaise qui explique les raisons pour lesquelles on a arrêté Dominique Strauss-Kahn dans son avion en partance pour Paris. Et parmi ces chefs d'accusation qui lui étaient lancés, il y avait le fait de séquestration dans une pièce, il y avait le fait d'agression sexuelle, etc. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est séquestration. Parce que, vous savez, un individu arrivé à un certain âge, il y a quelque chose d'assez répétitif, d'assez stigmatisant dans sa façon de s'y prendre quand il a des déviances, qu'elles soient sexuelles ou autres. Bon. Or, ce qui frappe quand on connaît un petit peu le modus operandi de Dominique Strauss-Kahn, c'est ce besoin de fermer la porte à clé. Bon, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je connais des tas de gens qui vous sautent dessus sans fermer la porte, en tout cas à clé. Bon. Et là, quand j'ai entendu le chef de la police new-yorkaise commencer par cette déclinaison de ce qui lui était reproché en disant séquestration, là, tout de suite, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai pensé à ma fille, parce qu'effectivement, il l'avait enfermée. J'ai pensé à moi, parce qu'effectivement, bon, et j'ai repensé à tout ce que j'avais eu à connaître, à la fois de façon plus ou moins par la bande, comme on dit, et en direct, parce qu'il n'y a que deux femmes qui m'ont parlé directement à la suite des révélations que ma fille avait faites en 2007 au dîner de Thierry Ardisson. Il n'y a que deux femmes qui m'en avaient parlé, mais les deux avaient aussi mis l'accent sur ce côté. On ne pouvait rien faire parce qu'il avait fermé la porte à clé. Et là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mon intime conviction, elle était faite. Il avait perdu les pédales, il était sans doute dans un état incontrôlable, ça c'est sûr, mais le chef de la police new-yorkaise n'a pas pu inventer que la porte était fermée à clé si elle n'était pas fermée à clé, quoi. Aussi bête que ça. Et donc, immédiatement, je n'ai pas vu, et c'est vrai, je n'ai pas vu les choses sous l'angle d'un éventuel complot visant à porter tort à Dominique Strauss-Kahn. J'ai immédiatement pensé qu'il était effectivement coupable de ce qu'il avait, de ce qui lui était reproché. Alors, après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a deux explications possibles. La première, c'est que effectivement, moi, je m'étais rendu compte depuis 2008 qu'il avait autant envie d'être président de la République que moi d'être carmélite. Hein. Bon.
Traîner les pieds.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire que en fait, il aurait bien voulu être président de la République, mais c'est un homme qui n'a jamais aimé se faire élire. Il n'a jamais aimé se faire élire. Et d'ailleurs, un jour, peut-être que j'écrirai quelque chose là-dessus, après avoir beaucoup étudié, parce que je n'en connais pas suffisamment. J'ai observé cette espèce de difficulté à passer par les arcanes d'une campagne électorale chez beaucoup de garçons culturellement baignés depuis l'enfance dans la culture et la tradition juive. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est peut-être pas une chose politiquement correcte de le dire, mais je l'ai observé suffisamment souvent pour que ça donne à réfléchir. Un petit garçon dans une famille juive, il est le roi, il est le dieu de sa maman. Bon. Et il est tellement le dieu et le roi qu'il n'a rien à prouver. Il y a très peu de petits garçons juifs qui aient le sentiment de ne pas avoir été aimés par leur maman, par leur papa, par leur entourage. Et pour avoir très envie de se faire élire, il faut quelque part ne pas avoir été suffisamment aimé par l'un ou par l'autre. Alors là, vous allez me dire, je fais du Freud au petit pied, mais c'est la vérité. Il y a un besoin d'être choisi. Or, dans la tradition juive, les juifs sont le peuple élu. C'est le peuple élu. Il naît, le petit garçon juif, avec cette notion qu'il est le roi de sa maman et qu'il fait partie du peuple élu. Et que ce soit de Mendès France à Laurent Fabius, en passant par Dominique Strauss-Kahn et beaucoup d'autres, c'est très rare qu'il y ait, alors bien sûr, il y en a qui ont fait très correctement leur boulot, hein, c'est pas ce que je veux dire, ne me faites pas dire ça. C'est très rare qu'ils aient cette rage de gagner une élection, parce qu'il faut vraiment faire la pute quand on veut gagner une élection. Il faut vraiment dire à des petites dames qui promènent leur gamin, qui est franchement un emmerdeur, « Oh, comme il est bien élevé, votre petit garçon, madame !» Il faut aller au cul des vaches, il faut aller dans les coursives des immeubles HLM, boire des trucs absolument improbables, en disant « Mon Dieu, c'est formidable, cette liqueur, qu'est-ce qu'elle a bon goût, etc. » Il faut vraiment avoir envie de ça. Il faut vraiment avoir envie de plaire. Et vous savez, on dit souvent que les femmes trop belles ou les garçons trop beaux n'ont pas autant de charme que ceux qui sont un peu vilains. Eh bien, c'est vrai. On fait beaucoup plus d'efforts quand on n'est pas, gâté par la nature. Et j'ai observé chez lui cette volonté de ne pas faire le boulot pour être élu. Et moi, je me rappelle quand il était marié avec Brigitte Guillemette et qu'il s'est présenté en Savoie.
Qui lui a ouvert la voie.
Oui, c'est le cas de le dire, mais ça a été pénible. Hein. Qu'est-ce qu'il a fallu ramer ? Parce que s'il n'y avait pas eu le scrutin de liste, il ne passait pas. Il a pris tout le monde de haut avec ses diplômes, son côté. Moi, je sais. Et j'ai vécu ça aussi avec Bernard Kouchner, qui n'a jamais été foutu de se faire élire nulle part autrement que sur une liste. Parce que c'est vrai qu'il faut arriver à convaincre des gens dont on est au fond convaincu qu'ils sont moins intelligents. Non, mais c'est vrai, moins cultivé, moins doué que vous. Et donc, il faut vraiment en avoir envie. Et ça, je ne l'ai pas observé. Donc, il y avait sans doute une première composante qui était l'absence de volonté farouche de devenir président de la République pour avoir le pouvoir. Et deuxièmement, il y avait quelque chose aussi qui n'était pas négligé, c'est qu'il adorait son boulot au FMI parce que c'était exactement ce qui lui convenait.
Ce qui lui convenait.
Et ça, Sarkozy a eu une vraie intuition, parce qu'il était un très bon directeur général du FMI. Il avait à la fois le côté bling-bling, parce qu'il était dans toutes les réunions internationales, etc. Bon, avec en même temps ce côté très, très luxueux dans lequel il aime évoluer, avec les voitures américaines, les trucs, les machins.
Donnant des leçons.
Oui, il donnait des leçons autres. À tout le monde. Enfin, c'était quelque chose qui vraiment lui plaisait, l'épanouissait. Et puis d'avoir des chefs d'État qui lui demandaient des conseils et qui venaient plaider pour leur budget, c'est quand même plus valorisant que d'aller au cul des vaches pour démontrer à des fermiers qui vendent leur lait difficilement que finalement la PAC, bon ben on verra ça. Mais c'est vraiment, c'était son truc, son univers. En plus, il a un frère qui est banquier aux États-Unis, donc il était très heureux là-bas. Et il n'avait aucune envie de revenir. Et à chaque fois qu'on lui disait « Bon, ben maintenant, il faudrait revenir, parce qu'autrement... Bon. » Moi, enfin, je sais qu'on avait été nombreux à lui conseiller de quitter son poste au FMI à la fin de l'année 2010, de façon à ne pas avoir de sommet trop nombreux à effectuer en 2011, avec Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même pas évident à gérer non plus d'être adversaire, si je puis dire, à la Seine et partenaire à la ville. C'est compliqué. Donc il avait cette conscience du fait que finalement c'était pas tellement sa tasse de thé.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée.